I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations, en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps, et aujourd'hui, je pense être détendue, mais j'ai encore plein d'espaces sur lesquels je ne suis pas vraiment, vraiment détendue. Hein. J'ai cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de me dire... de faire bien quand même. Elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, moi, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas ce qui fait bien.
Donc c'est,
et j'ai
c'est,
encore beaucoup.
C'est d'équerre.
Oui, oui, oui.
Mais pas pour ta fille.
Ma fille, il faut qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
J'adore.
Salut Ingrid.
Salut.
Ça va?
Oui, très bien.
Merci Ingrid de venir jusqu'à moi.
Merci à toi.
Tu viens du fin fond du sud.
Ouais, de l'extrême sud-est.
De l'extrême sud-est. merci, écoute, merci de venir. On va parler de ton expérience de la maternité.
Ouais.
Que tu définirais comme plutôt heureuse, c'est
ah
ça?
Oui, moi j'ai eu deux grossesses et accouchements, enfantements et maternage. Très, très, très heureux et très joyeux. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. L'expérience d'être enceinte et puis les bébés, les bambins, j'ai adoré.
T'as 42 ans, c'est ça? T'as deux enfants, donc.
Oui.
Qui ont 15. Donc, t'as un garçon, c'est ça, qui a 15 ans. Et une fille, voilà. Qui a 12.
Exactement. Et ça date un peu. Et ils ont réveillé... plein de choses chez moi, comme je te disais, très différemment l'un de l'autre. Mais pour moi, je suis kiné de formation, donc j'ai beaucoup accompagné aussi de couples enceints. Et j'ai beaucoup accompagné de jeunes parents, de jeunes bébés. J'étais spécialisée en périnatalité, pédiatrie, neuropédiatrie. Et comme je dis aux couples que j'ai accompagnés, l'expérience pour moi de l'enfantement, quand une femme peut accoucher par elle-même comme elle le souhaite, ça a été pour moi une expérience d'empuissancement, vraiment, de sentir cette force qui me traverse, la vie qui me traverse. J'ai souvent dit, les hommes ont besoin peut-être de s'accomplir sportivement parlant ou intellectuellement, tu vois, d'aller gravir l'Everest. Eh bien, les femmes peuvent avoir l'équivalent juste en accouchant par elles-mêmes. Accoucher par soi-même, ça peut être sous césarienne programmée, hein, quand c'est un choix de la femme en présence et en conscience.
Oui, c'est ça.
C'est pas forcément. Moi, ils sont nés à la maison parce que c'était un choix. Je voulais.
Pas on va en parler.
Péridurale. Ouais.
Tu voulais pas de péridurale, ouais. C'est ça? Tu voulais.
En fait, étant kiné, j'ai fait beaucoup de stages à l'hôpital. Et pour moi, l'hôpital n'était pas du tout associé à la vie, c'est associé à la maladie. Donc, je voyais pas pourquoi je voulais aller vivre l'expérience de l'enfantement qui est donné la vie à l'hôpital. Déjà, de base, ça rentrait pas dans les cases de neuronales. Les neurones n'étaient pas d'accord. Et après, mon corps, pas trop, parce que je voulais pas de péridurale. Je voulais rester connectée, en fait, à mes bébés. Être présente à eux. Et je sais que pour un enfant, de naître, c'est le début d'une sacrée aventure. Enfin, c'est un sacré passage initiatique aussi, hein, de passer au travers le bassin, le périnée, de venir s'engager dans ce tunnel. Et au fond, ils finissent par voir la lumière.
Mais tu m'étonnes.
C'est un énorme processus. Et je pense que moi, j'ai encodé ça dans mes cellules, enfin, bébé et j'avais envie, en tant que maman, d'être présente à mes bébés pour pouvoir les aider dans ce chemin. Et parce que techniquement parlant, en fait, la douleur que peut ressentir la femme lorsqu'elle accouche est au service de l'accouchement. Parce que, en fait, la nature est bien faite.
Les contractions, globalement, donc les contractions. Ça sert à faire en sorte d'ouvrir le col.
Alors, il y a ça.
Putain, j'ai appris des trucs, je te jure.
Bravo, toi aussi, tu es papa. Il y a ça. En gros, s'il n'y a pas de contraction utérine, c'est pas le bébé qui a la force de ses bras et de sa tête et de ses pieds qui va sortir tout seul. Donc, on sait pourquoi ça fait mal, la contraction utérine. Enfin, on sait pourquoi elle est là. Mais il y a aussi le fait que les structures que le bébé va toucher, va venir travailler, qui vont générer de la douleur chez la maman, vont permettre à la mère, si elle écoute sa douleur, de prendre une position antalgique, donc une position moins douloureuse, qui va être la position qui va faciliter le chemin à bébé. Je sais pas si c'est assez clair comme ça.
Oui, c'est-à-dire que globalement, ce que tu es en train de dire, c'est que la position sur le dos un peu classique qu'on voit dans la plupart des hôpitaux n'est pas forcément la meilleure position.
C'est là, je crois que on peut dire c'est une des pires.
Ah oui,
c'est pas du tout physiologique. Tu verras jamais des femmes accoucher par elles-mêmes naturellement en s'allongeant sur le dos et encore en plus en étant anesthésiées. Mais la péridurale et cette position et cette posture peuvent convenir à plein de personnes, plein de femmes qui accouchent. Ou plein de couples, mais naturellement, la gravité n'agit pas sur le corps de la même manière pour aider la descente au bébé. Le bassin est bloqué, immobilisé par son appui sur la table. Les jambes écartées, ça n'aide pas non plus à venir laisser le bassin en mouvement.
Là, c'est la kiné qui parle. Hein.
Ouais, c'est la kiné qui parle, pardon.
Non,
je suis aussi kiné.
Oui, dis pas pardon.
et du coup, ça ne facilite pas le processus de l'accouchement. Et puis, quand tu as une péridurale, tu ne peux pas ressentir autant la douleur. Quand tu as une péridurale bien dosée, tu la ressens moins, voire pas du tout. Et tu ne peux pas, de toute façon, te mouvoir et bouger comme tu le souhaites. Tu ne vas pas pouvoir. Donc, tu ne vas pas pouvoir prendre des positions antalgiques. Ça ne va pas faciliter les choses pour la naissance de ton bébé. Mais ça peut être aidé par, de l'ocytocine de synthèse, par la perfusion. Ça peut être très médicalisé, comme pas du tout, comme un juste milieu. Moi, j'ai fait le choix de pouvoir ressentir, être présente et... Ça me convenait bien et visiblement, ça a bien convenu à mes bébés qui ont réussi à faire leur chemin.
T'étais jeune hein, quand t'as eu tes premiers enfants. Ton premier enfant, t'avais 26 ans, c'est ça?
26, exactement. J'allais sur mes 27. Et deuxième, 29, j'allais sur
mes 30.
T'étais
hyper en amont de l'accouchement à la maison, qui est devenu un truc un peu plus classique. Enfin, pas classique,
plus
mais
commun.
En tout cas plus commun. Voilà.
Ouais. Oui. Alors, au début, c'était pas forcément que je voulais accoucher à la maison. C'est vraiment, je veux pas de péridurale, je suis pas à l'aise à l'hôpital, quel choix s'offre à moi?
Pas des masses.
voilà. Et du coup, j'étais quand même suivie à l'hôpital par un gynéco assez ouvert d'esprit, que je voyais régulièrement tous les mois. Je suis allée voir aussi l'anesthésiste au cas où j'aurais besoin d'être transférée à l'hôpital. J'étais à 10 minutes de l'hôpital, donc comme je disais, je suis en confiance, je suis sereine.
Pas beaucoup de risques, quoi.
Ouais, voilà, moi, il me fallait ça. Mais C'était rigolo comment ça a été accueilli. Alors, il n'y avait pas de plateau technique. Maintenant, il y a aussi beaucoup de plateaux techniques, c'est-à-dire des sages-femmes libérales ou des gynéco-libéraux qui peuvent accompagner la personne, la parturiente, la femme enceinte pendant tout le temps de la grossesse et être présent à l'accouchement dans un hôpital qui ouvre son plateau technique à du professionnel extérieur. Moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Maintenant, il y a. Donc, j'avais pas tellement trop d'autres choix que de le faire à la maison. J'avais la chance, on est une région qui était relativement bien fournie en termes d'accompagnante à la naissance, parce que je voulais pas le faire toute seule non plus. Et j'ai eu un coup de cœur pour la personne. Alors moi, c'était évident qu'il fallait que mon compagnon, mon mari de l'époque, soit aussi OK sur le principe. Comme je disais, je préfère accoucher à l'hôpital, mais qu'on soit tous les deux présents et de faire le job plutôt que d'accoucher seule à la maison. Et lui, il l'a rencontré aussi une fois. Et puis, gros coup de cœur, grosse confiance. J'ai eu besoin de contacter une femme qui avait déjà été accompagnée par elle, qui avait déjà accouché avec elle. Ça m'a rassurée.
Un retour client, quoi.
Ouais, exactement. J'ai vu que la femme n'était pas barge, le bébé non plus. J'ai dit OK, parce que à l'hôpital, on me disait mais... tout va bien, d'accord, mais c'est une première, on ne sait pas comment votre corps va réagir, etc. Et j'aurais dit, mais moi, des enfants, je n'en veux pas 36 000. Donc, si tout va bien là pendant cette grossesse, pourquoi ne pas le tenter là? Je ne sais pas si tout ira bien, si j'en vivrai une seconde ou pas. Donc, voilà. Et j'avais plus confiance, si tu veux, en une personne qui m'avait suivi tout le temps de la grossesse, qui me connaissait bien, qui savait comment je réagissais et qui était présente à partir du moment où je sentais qu'elle... sa présence était nécessaire et son, éventuellement son aide. J'avais plus confiance en ça et qu'elle réagisse et qu'elle me dise là, on continue à la maison, on doit aller à l'hôpital, plutôt que d'être à l'hôpital avec une personne qui potentiellement je ne m'avais jamais croisée, avait juste mon dossier. Et puis le temps qu'elle réagisse, le temps que les personnes arrivent, les professionnels, etc., je me disais l'un dans l'autre, en termes de timing, c'est équivalent, quoi.
Ok. Bon, on va parler de tout ça, parce que là, on est en train
Je suis en train de voir sur la grossesse. Pourquoi je m'excuse? Faut que j'arrête
de m'excuser. C'était pas du tout par rapport à ça. Je te disais pas ça par rapport à ça. Je te disais juste, j'aimerais bien qu'on démarre par ma première question, qui est en fait ton désir de maternité.
Mon désir de maternité.
D'où il te vient?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oh, c'est une bonne question. Je crois que je me suis jamais posé la question de ne pas avoir d'enfant. Donc c'était évident pour moi d'en avoir. J'avais très égoïstement très envie d'être enceinte. Je trouve ça très beau, une femme enceinte. J'avais très envie de savoir comment c'est dans le corps de porter une autre vie que soi.
J'aimerais bien savoir.
Ouais, tu vois, vraiment pouvoir avoir ces sensations-là. J'avais très envie d'accoucher, j'avais très envie de materner un bébé, d'allaiter.
Moi, j'ai pas envie d'accoucher. J'ai vu. Je veux bien être enceinte,
mais... Ça dépend des accouchements.
Accoucher...
Tu sais qu'il y a des accouchements orgasmiques. Il y a des femmes qui vraiment... Alors moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai adoré accoucher les deux fois. Mais il y a des femmes qui ont des accouchements orgasmiques qui vraiment, c'est un moment de plaisir pour elles et très éloigné de la souffrance. Donc peut-être qu'avec cette notion-là, tu vas changer d'avis.
Non. Parce que vraiment, j'ai pas entendu beaucoup de femmes me raconter qu'elles avaient pris leurs pieds en accouchant.
Je suis pas crédible, mais il y en a, je t'assure.
Ah, mais je te crois. Après, je te dis, sur le panel que j'ai là, moi aujourd'hui, je sais pas, 50 épisodes d'Histoire de Daronne, j'en ai pas entendu une, tu vois, pour l'instant.
Ouais.
Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me raconter.
Exactement.
Comme vous avez adoré, kiffé et votre. Bon, bref. et donc, ouais, t'as jamais. Penser qu'une autre vie était possible sans enfant, quoi.
Exactement.
Ça n'a jamais fait partie de ton spectre.
Ça fait que quelques mois que j'y pense, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas d'enfants. Et je me dis, ah, en fait, c'est un choix de vie qui peut être sympa aussi. Je ne regrette rien du tout. Je suis très heureuse de... Enfin, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je ne les avais pas eus. Ils m'apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je crois qu'il y a d'autres espaces où on peut aussi apprendre et s'élever, grandir.
Mais
sans
on
n'est
pas
d'enfant.
Loin d'avoir le même âge, toi et moi. Et moi, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles de ce qu'on appelle child free, tu vois, aujourd'hui, de gens qui ne veulent pas d'enfants par choix, dans notre espace. En tout cas, moi, dans mon espace, ça n'existait pas, quoi. Il n'y en avait pas.
Oui, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment été élevée, éduquée. Enfin, je ne me suis jamais questionnée. Je trouve, entre guillemets, l'homme de ma vie, avec qui j'ai envie. premier check. Avec qui j'ai envie de me marier. Je voulais être madame avant d'être maman. Je le répétais sans cesse, tu vois, parce que lui, il avait.
Deuxième check.
11 ans de plus que moi, déjà un enfant, mais il n'avait pas été marié. Donc, c'était vraiment un truc. Ça, tu le feras avec moi.
C'est important aussi, de pouvoir être la première, parfois.
C'est ça. Donc voilà, mariage, être madame autre que mon nom de jeune fille, et puis ensuite avoir des enfants, c'était évident. La maison, le cabinet de kiné, le boulot qui va bien, et puis après, à 40 ans, j'ai fait ma crise et j'ai tout lâché.
Sauf les enfants.
Pas les enfants, mais en résidence alternée, donc la moitié du temps quand même, c'est différent, hein. C'est très différent. Donc voilà. Jamais interrogé ça, finalement.
Jamais vraiment interrogé ça.
Non, et je sais que on a mis un peu plus d'un an entre la volonté d'avoir un enfant et ce qu'il décide à venir nous visiter. Et c'était très difficile pour moi, hein, ce temps d'attente et de latence. Pourtant, j'étais jeune encore, mais bon, comme mon ex-mari avait déjà un enfant, je me dis, s'il y a un problème, ça vient forcément de moi. Enfin, tu sais, je commençais à me... Et puis toutes les copines elles arrêtaient la pilule, elles tombaient enceintes tout de suite, ma sœur, le mois qui suivait et tout. Et j'ai été vraiment très, très triste. Et grâce à ça, je suis allée consulter un psy pour la première fois de ma vie. Donc mon fils m'a permis. Lui, il a dit non, moi, j'atterris pas tant que tu vas pas commencer à décroter, dégrossir un peu le terrain d'atterrissage. Et il est arrivé après, ouais.
Qu'est-ce que tu as décroté pendant cette année de thérapie alors?
Alors déjà, lever la pression, la tension, l'attente, quoi. En fait, j'ai appris à aller mettre mon attention sur autre chose. Genre, je me suis inscrite à un marathon que j'ai jamais couru parce que finalement, j'ai été enceinte. Je m'étais mis un autre projet. J'avais jamais couru de marathon parce que j'ai fait de l'athlétisme à un certain niveau et je faisais du demi-fond, je courais beaucoup, beaucoup, mais semi-marathon, 20 km, tout ça, jamais de marathon. Je me suis dit, je vais courir un marathon. J'ai passé mon permis moto, mais en fait, j'ai pris juste quelques cours. Et en fait, j'ai mis mon attention ailleurs que sur le désir d'être enceinte et d'avoir un enfant. Donc, premier enseignement. Et puis après, ce que je suis allée décroter, c'était mon histoire familiale, de lien avec mes parents, grands-parents paternels. Tout ce qu'il y a à décroter. Il y aurait beaucoup si je commence à te raconter tout ce qu'il y a à décroter, mais en tous les cas, j'étais presque un peu honteuse à l'époque d'avoir besoin d'aller voir un psy, parce que dans ma famille, c'était mal vu, malvenu. En gros, c'était si vraiment t'étais très malade, quoi. Et les psys, c'était pour prendre des médocs, tout ça. On avait un psychiatre dans la famille qui n'était pas très reluisant. Donc, quand j'ai dit non, c'est juste j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être accompagnée, je sens une certaine douleur, souffrance, et j'ai besoin de clés, tout ça. Mais c'était... accueillir le fait que ça va, qu'il y a peut-être un petit accroche dans la superbe peinture, c'est problématique, quoi.
Mais ça a été dur de passer ce cap.
Pas tellement pour moi, parce que moi, je ressentais l'appel et ça m'a fait vraiment beaucoup du bien, ça m'a détendue, mais plus de l'affirmer, tu vois. Il y avait une histoire de fidélité, de loyauté familiale. Et se dire, ah ben non, si eux, ils pensent que c'est pas terrible, ça sert à rien, que je suis grave si j'y vais. Mais voilà, ça a été le début du chemin, parce que mes parents, c'est pareil, quand je leur ai dit... J'étais un peu discrète sur l'accouchement à domicile, parce que je voulais pas me confronter aux peurs, aux doutes des uns des autres. Je voulais pas revendiquer mon chemin non plus, j'étais bien avec le choix que je faisais. Mais mes parents... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis incapable, moi, de mentir. Même de ne pas dire la vérité, c'est très compliqué pour moi. Alors, mentir encore plus. Omettre de dire la vérité. Et du coup, quand ils m'ont posé plusieurs questions, tu vois, un peu par curiosité, alors du coup, tu veux accoucher où, ta, ben, j'ai pas su ne pas répondre, quoi. Et si tu veux, ça a été intéressant pour moi d'aller voir un psy. C'était le premier pas vers, je suis pas obligée de faire comme le chemin tout tracé, qui paraît être le bon pour mes parents, mais qui est pas forcément le bon pour moi. Et donc, je leur ai annoncé que j'accouchais à la maison, et puis, ils ont réagi avec leur peur, leur inquiétude. Ils étaient juste plein de peur et ils l'ont exprimé en mode pas forcément tout plein, à cœur blessé plutôt qu'à cœur ouvert. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu vas encore nous chercher là? Te compliquer la vie? Déjà, t'as un mec qui a déjà un enfant, 11 ans de plus que toi, qu'est-ce que c'est?
Ouais, donc là, tout est sorti en plus.
Ouais, mais ils me l'avaient déjà dit, ça.
Ils t'avaient déjà dit, waouh.
Mais ils ont arrêté de me dire des choses parce que moi, je suis un peu rebelle aussi. Et donc, quand on m'avait dit, un mec qui a 11 ans plus que toi, qui habite à Ibis-en-Borne, qui a déjà un enfant, qu'est-ce qui va te compliquer la vie et tout. Mais rien que par esprit un peu de contradiction. En même temps, tu vois, j'étais très ambivalente finalement parce que je suis le chemin, mais en même temps, j'étais un peu en rébellion. Et j'ai dit, ben non, celui-là, je vais vous prouver que c'est le bon et que je vais faire ma vie avec lui.
Ah, ouais.
Donc du coup, l'accouchement à domicile, ils en ont pas trop dit trop de mal non plus parce que sinon, ils savaient que ça allait encore plus me motiver. Mais j'étais décidée. Et puis finalement, c'était très rigolo parce que ma mère flippait d'être là et en même temps elle voulait être un peu présente pour m'aider, donc elle arrivait plus d'un mois avant le terme pour m'aider dans la dernière ligne droite, mais en partant suffisamment tôt pour pas être présente au moment de l'accouchement. Elle avait pris ses billets en fonction parce qu'il vivait à l'étranger en plus à l'époque, et en fait mon fils est arrivé avec 3 semaines d'avance, donc elle a été présente le jour où j'ai accouché par moi-même à la maison, et elle flippait, elle allait se balader, etc. Donc ça l'a fait travailler aussi, ma mère. Et puis mon père a fini par me dire, après la première expérience, qu'il était extrêmement fier de moi. Mmh. Donc c'était aussi un premier affranchissement, une première manière de moi ressentir qu'est-ce qui était juste pour moi et me faire confiance dans mes élans, en fait, que j'avais pu un peu nier par le passé et qui a été reconnu.
On est nos propres personnes, hein.
Ouais.
On n'est pas obligé de vivre à travers nos parents, quoi.
C'est ça. Ça m'a beaucoup appris. Après, tout le monde était convaincu. Tout le monde trouvait ça génial après. Mmh. Même mon ex-mari. Lui, il était un peu frais et froid au début parce qu'il avait déjà eu l'expérience d'un accouchement à l'hôpital avec péridurale qui n'avait pas bien fonctionné. Sa compagne de l'époque qui avait beaucoup souffert. Mmh. Hein, et du coup, il me disait, mais toi, tu es là en train de... Tu es dans tes trucs parce que tu ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je sais. Et puis, bon, il m'a fait confiance. Il a fait confiance à la personne. Et après, pour le deuxième, la question ne se posait plus, quoi.
C'est tellement dur de souffrir par procuration en même temps par rapport à son expérience, j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça.
Oui.
C'est vraiment très chiant. Hein. Vraiment, c'est le pire truc que tu puisses faire d'être là comme un connard, en plus en tant que mec.
Ouais.
À juste observer et à être là, à ne rien pouvoir faire, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est l'expérience.
C'est la. J'ai connecté à ça en tant qu'accompagnante il n'y a pas longtemps, la puissance de l'impuissance. Finalement, tu vois, être en présence et en même temps, tu peux pas faire grand chose d'autre que d'être présent. Et il y a une super approche pour accompagner les hommes là-dedans, c'est l'autonomie. Je sais pas si tu en as entendu parler.
J'en ai pas fait à l'époque parce que c'était pas très très connu, mais oui, bien sûr, j'en ai entendu beaucoup parler dans mes podcasts.
Moi, je me suis formée à l'autonomie, à l'autonomie, et du coup, je donnais plein de clés aux futurs papas et aux futures mamans. Et c'est une sacrée belle préparation pour que le père sente toute la place qu'il a déjà le temps de la grossesse pour prendre soin de la future de la mère, de la future maman. Mmh. Et puis aussi pour sa présence à l'accouchement qui est rien, même s'il fait rien, juste d'être là. Enfin, il y a plein d'outils qui sont extra au-delà de connecter au bébé. Et c'est magnifique, magique, l'autonomie.
Alors, tu me disais dans ton mail que tu m'as envoyé que tu avais été une maman ultra maternante.
Ouais.
Et que... T'as la sensation que ça a un peu changé ces dernières années avec tes enfants qui deviennent ados, et en même temps peut-être que c'est un peu le...
C'est un peu le cours de la vie.
C'est un peu le chemin, quoi, tu vois. Je me demandais un petit peu, est-ce que t'as la sensation, toi, d'avoir bougé, en fait, en toi, une fois que ton fils est né?
Ouais.
Est-ce que t'as la sensation d'être devenue maman, et comment qu'est-ce que ça a fait en toi?
Alors ça... Je ne me suis jamais posé la question non plus. Ça n'a pas été soudain. Et puis, déjà, rien que le fait d'être enceinte, il y a plein de trucs qui se préparent. Quand il est né, Je sais pas, je crois que j'ai appris à être maman un peu petit à petit, en fait, avec les responsabilités, tous les choix aussi que tu fais pour cet être-là. Le choix de mode de garde, est-ce que le choix de la santé, vacciner, pas, lesquels, c'est des sacrées questions, allaiter, pas allaiter, alimenter, comment, les médicaments. Enfin, du coup, moi, ça a été l'école de des responsabilités. Mais redis-moi ta question, c'était...
Je me demandais un peu ce que ça avait changé en toi. Est-ce que ça avait changé des choses en toi? Est-ce que ça avait changé en toi de devenir maman?
Beaucoup, il y a vraiment le poids des responsabilités qui est là. Maturité, la fierté aussi.
Parce que t'es jeune, t'as 26 ans.
Ouais. Oui, puis en plus j'ai fait des choix quand même audacieux. Enfin, et puis moi je travaillais aussi, j'ai un truc que je t'ai pas dit qui a motivé mes accouchements à domicile, c'est que j'étais spécialisée en pédiatrie et neuropédiatrie. Donc je m'occupais des enfants en difficulté motrice, neuromotrice. Et il se trouve que dans ces enfants-là, il y a énormément de souffrances néonatales ou périnatales. Enfin voilà, souffrances à l'accouchement, anoxie, donc manque d'oxygène. Et moi, je partais du principe, il y a des prématurés aussi qu'on a réanimés, etc. Et je partais du principe que si mon enfant n'est pas bien en naissant et s'il n'est pas apte à vivre la vie, qu'il a besoin d'une aide médicale, tu vois, limite de rien, des choses comme ça, je préfère le laisser juste vivre le temps de la maturation pendant la grossesse et le laisser mourir, tu vois, plutôt que de réanimer, d'avoir un enfant potentiellement en difficulté motrice ou intellectuelle.
Incroyable.
Ouais, c'est assez dingue, mais je me disais, soit t'es apte à venir au monde.
Tu peux choisir ça en tant que parent, de venir dire non, en fait, ne le réanimez pas, s'il vous plaît.
Bah ça c'est tabou, on n'en parle pas, mais souvent.
T'as déjà.
Je sais pas si c'est malheureusement, heureusement, c'est l'équipe médicale qui choisit. Mais de demander aux parents ce qu'ils en pensent, je trouve que c'est une bonne chose aussi, tu vois, de mettre un peu les parents dans la boucle. Parce que tu sais jamais, il y a des grands, très grands prématurés qui sont aujourd'hui comme toi et moi, même il y a une pub Pampers en ce moment, qui dit une grande prématurée de 2 mois, qui est, je sais plus dans quel sport, championne du monde, ou un truc comme ça. Donc, qui peuvent aller très très bien, et puis t'en as d'autres qui deviennent, j'exagère, mais quelque chose proche du légume, quoi, l'état de légume, et qu'il y a des sacrées souffrances. Donc, moi j'étais en mode très, je fais confiance à la vie, à la nature. Donc, dans la nature, on va pas brancher les êtres, on va pas les mettre sous oxygène, on va pas les réanimer, on va. Donc, si la nature veut qu'il vive, ben il vivra, et si elle veut pas, il vivra pas.
C'est incroyable parce que c'est, je crois que c'est un lien et un rapport à la mort, notamment infantile, des tout petits, qu'on a un peu perdu en fait, qui était à mon avis très quotidien il y a un siècle, il n'y a pas longtemps en fait à l'échelle de l'humanité, et qu'aujourd'hui on a du mal à, avec lequel on a du mal à dealer quoi.
Ouais. Alors c'était l'état d'esprit.
Tu t'étais préparé à ça toi.
Ouais, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et en même temps, je le nommais, je disais, bon, je pense pas que je serais la fière, quoi. Voilà, et peut-être, sans doute, je changerais d'avis au moment, j'en sais rien. Et
en tout cas, tu l'avais anticipé.
J'avais anticipé.
Par ton job.
Ben oui, parce que moi, j'étais confrontée à un handicap au quotidien et dans les dossiers. Il y avait beaucoup de souffrances autour de la naissance. Et je voulais pas d'un enfant en situation de handicap. Enfin, je voulais pas, on choisit pas, mais ouais, c'était quelque chose que je trouvais lourd et j'étais ok avec ça, ouais, vraiment. Et puis bon, après on n'en a pas discuté des caisses non plus avec le papa.
Oui, c'est ça. Comment tu viens dire ça à...
Parce que je sais pas, moi je suis très spontanée.
Ouais, non mais en fait pour le coup, j'imagine que c'est un truc très personnel et qui vient de ton vécu à toi profond, quoi. Et que ça doit... Enfin, moi, je me mets à la place de ton gars. Je me dis, OK.
Bah, il pouvait toujours prendre le bébé et puis monter à l'hôpital avec, tu vois.
Ouais.
Je ne me serais pas opposée non plus.
Oui, bien sûr.
Mais j'étais aussi très OK avec le fait, moi, de mourir au cours de l'accouchement. Tu vois, ben oui, c'est, je veux dire, ça engage la vie et de la maman et du bébé. Hein. Donc moi, j'étais consciente, risque d'hémorragie, de ci, de ça. Et je disais non, bon, évidemment, ce serait pas très drôle ni pour le papa, ni pour le bébé, mais c'est une possibilité, une option.
Okay.
Après, Je sais pas.
À 26 piges.
Ouais. Alors, un truc
mais
que
qui es-tu, Gandhi ?
Pas dit, c'est que moi, j'ai été conçue en Afrique. J'ai été conçue au Niger.
N'en dis pas plus.
Voilà. J'ai fait mes premiers pas en Côte d'Ivoire, parce que mes parents étaient expats. Et ce qui est un peu moins exotique, c'est que je suis née à Saint-Germain-en-Laye, dans le 78. Et du coup, je pense que j'ai une sacrée connexion à la terre africaine et à ce côté pure nature, dur, un peu aussi peut-être chamanique, ou tu vois, la confiance en les éléments.
Ok.
Et peut-être, c'est, j'avais jamais fait le lien. Donc merci au podcast, ça me permet de faire le lien. Il y avait ce côté Inch'Allah, quoi, ou Inch'Bouddha, de on verra bien.
Ok. D'accord. Comment s'est passée la rencontre avec ton fils, tu te souviens ?
Oui.
Et bah, mais Ingrid a un grand sourire.
Ouais, bah parce que c'est beau. C'était très drôle parce que, en fait, moi j'étais très tonique. J'étais sportive à certains niveaux et du coup j'étais très très tonique dans mon corps et j'y allais à cet accouchement en mode compétitrice. Donc, je voulais accoucher à la maison. Donc, j'avais fait toutes les préparations possibles et inimaginables pour bien être prête, quoi. Donc, j'avais fait l'abdominale, j'avais fait la sophro, j'avais fait, même l'aquagym, alors que ça me saoulait d'aller dans l'eau, j'aimais pas. Je sais plus. J'avais fait tout ce qui était possible à l'époque. L'hypnose, peut-être, et dont le champ prénatal qui a été la plus belle des approches. Donc, je conseille tout le monde maintenant le champ prénatal qui, alors que je n'étais pas du tout à l'aise à le chanter, mais ça m'a beaucoup apporté. On en reparlera ou pas, si tu veux, du champ prénatal, entre autres. Et j'ai fait tout ça. Et j'ai lu. Et j'ai vu des vidéos. Et j'ai relu. Mais j'étais à fond, quoi. Et au jour de l'accouchement, j'y vais à la contraction, entre deux contractions, j'étais, et ça a duré plus de 23 heures, je compte comme ça. Donc, j'ai mes premières contractions à 10 heures le soir, et il est né à 23h27 le lendemain, donc ouais, un peu plus d'un 4 heures. Et en fait, ça m'a vraiment fait travailler sur, mais détends-toi, quoi. Enfin, une contraction, oui, elle se vit, mais si elle est douloureuse, tu l'accompagnes. Mais moi, dès les premières contractions, j'étais « Ok, je suis avec !» Et puis, entre deux, enfin, les journées... Et en fait, je suis allée arriver à un moment d'épuisement
oui, c'est ça.
Où
trop
j'ai
long.
Été obligée de lâcher la tête. Et c'est maintenant comme ça que j'accompagne les personnes. On débranche la tête, on rebranche au corps. Et ça a été mon premier enseignement pendant mon premier accouchement. De toute façon, j'étais épuisée. Donc, j'ai... pleuré, j'ai laissé aller toutes les émotions, je me suis endormie, je ressemblais. Mais il a fait, c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Je ne sais pas si tu as connaissance de ça. Et j'ai vraiment tout lâché pour faire confiance et détendre, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste ça. Un accouchement, on demande juste à la femme d'être ouverte et détendue dans cette intensité. Et c'est pas évident.
Tu m'étonnes.
Mais du coup, te connecter au corps permet vraiment d'être un peu plus avec ce qui se passe.
C'est donc, la première fois que tu lâchais la tête ?
Ouais, je crois.
Ouais. Donc incroyable.
Ouais, merci. Hein. Et en fait, c'est génial ton podcast. Ça me fait vraiment prendre conscience de tout ce que mon fils, le premier, m'a apporté. Ouais, je crois que c'était la première fois que je lâchais la tête. Et quand même, ça, j'ai tenu un moment et puis. Après, j'avais le liquide amniotique qui était un petit peu teinté. Donc ça inquiétait un peu la personne qui m'accompagnait. Il n'y avait pas de signe du tout de mal-être du bébé, de notre bébé, mais elle me disait, il ne faut pas trop tarder. Et j'étais fatiguée, et je sentais que ça, les contractions n'étaient plus très efficaces. Donc c'est arrivé jusqu'au moment où elle m'a fait une perf, qu'on a eu super de difficultés à venir trouver la veine, tout ça, et qu'elle commençait juste à mettre un peu de ocytocine de synthèse, de syntocinon, pour aider les contractions, ceux que j'étais contre, tu vois, de base. Mais ça aussi, ça m'a fait lâcher de « Ok, j'ai peut-être besoin de cette aide médicale, quoi, accepte-le aussi, il s'agit de ton bébé, pas que de toi. » Et finalement, à partir du moment où elle m'a fait ça, et il n'y a même pas eu besoin d'injecter ou quoi, et ben ça m'a fait dynamiser, et puis il est venu. Et donc, quand il est venu, déjà, ça m'a... Avant qu'il ne soit là, il y a ce moment... Ça brûle le dos pendant les... Moi, ça m'a brûlé le dos parce que c'était un accouchement qu'on dit par les reins. Enfin, il était positionné, qu'il a fait trois quarts de tour au lieu d'un quart. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs techniques. Et puis après, moi, ce à quoi je n'étais pas trop préparée, c'est la douleur du périnée qui brûle. Moi, c'est, chez moi, ça a brûlé très, très, très fort. J'ai une petite déchirure. Donc, un peu douloureux, mais tellement de satisfaction. Et puis, je me rappelle avoir dit... à la personne qui m'accompagnait, à lui avoir dit « Oui, la déchirure, je crois que j'ai senti, c'est son oreille. » Je sais pas pourquoi. Genre, l'oreille du bébé qui va faire la déchirure. Je te jure, c'est parce que t'es dans un état. Et c'est ça où il faut préparer les papas aussi à dire « On devient bestial, animal, enfin, on peut sortir des conneries, on est complètement à l'ouest, quoi. » Ravagé un peu par le truc. Et en fait, c'est drôle parce que notre fils a un petit point à son oreille, du coup, qui est la bonne oreille par rapport à le côté où j'ai la déchirure. Et il a un petit point, mais un trou. Il a un tout petit trou. C'est rigolo. Bref. Très bizarre. Et quand il est arrivé, ça me donne les larmes. C'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Ce petit être-là, il était tout calme. Il avait la tête en eau vide parce qu'il avait, il était resté un moment. Il avait bien poussé et tout. Et puis tout plein de cheveux là, et je sais pas, c'est un moment super super beau. Moi, j'ai sans doute énormément pleuré. Et puis après poser le sein, on a mis une demi-heure. On savait pas, on connaissait pas le sexe de notre bébé. Je voulais pas le savoir, mon côté pure nature. Mon ex-mari avait envie de le savoir, mon beau-fils aussi, parce que j'avais 6 ans à l'époque. Donc, on avait demandé à l'échographe de remplir une carte qui pouvait aller. On avait mis garçon ou fille et il savait où était la carte, il pouvait aller la consulter l'un ou l'autre. Mais je voulais pas qu'il le sache pendant l'échographie parce qu'à la réaction, j'aurais pu supposer si ça. Enfin, les suppositions, hein, ou projections, on sait pas. Et du coup, finalement, il l'a pas su, il est pas allé la consulter. Personne n'allait la consulter. Et on a mis une demi-heure avant de regarder si c'était un garçon ou une fille. Tellement on était dans nos hormones, dans l'accueil de ce petit être-là, de l'admirer. Enfin, moi, et c'est la sage-femme, c'est pas une sage-femme d'ailleurs qui nous a accompagné, c'est une médecin qui nous a dit bah, vous voulez qu'on regarde si il s'agit d'un garçon ou d'une fille? Et c'est ça qui est génial à la maison. C'est que tu prends le temps qui peut, là, quand t'écoutes ce podcast, une demi-heure avant, enfin, dans quel monde on est. Mais en fait, ouais, t'es sous un shoot d'hormones, et c'est un moment tellement hors du temps. Puis on a écarté ces gens, on a dit, c'est un garçon. Et de là, après, bah, du coup, comment est-ce qu'on va le prénommer? Voilà. Et puis, premier temps d'allaitement, premier bain avec lui, enfin, c'était génial. C'était hormonellement, chimiquement, je sais pas, amoureusement, hein, c'est vraiment de l'amour. Puis quand t'accouches à la maison, on peut prendre tout notre temps, quoi. J'ai pris un bain avec lui, tu vois, mon premier bain, il l'a pris avec moi. La première nuit, il l'a passé entre nous. Enfin, il a passé une grande partie de la nuit sur moi.
Maman!
Mais non, c'est moi, lui, il ne m'en dit rien. Mon ex-mari, il me dit, mais tu vas l'user à force de lui faire des caresses, des papouilles, de. Ouais, j'étais gaga, quoi. Et tout ça est possible. Je ne dis pas que ça n'est pas à l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités, vraiment, où ils vont vers le pot à pot, ils mettent plein
en
de trucs
cas,
en place.
À l'époque, c'était un peu moins.
Peut-être moins véhiculé.
À l'hosto, ouais.
Et du coup, ouais, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Et je me suis très vite remise de mes, comme on dit, les suites de couches. Par contre, derrière, les tranchées. Alors, les tranchées, c'est ce qui contracte l'utérus, qui te permet de recontracter l'utérus pour qu'il reprenne sa place, sa petite taille. Et ça, pareil, on m'avait pas beaucoup prévenu. Et j'ai douillé. Et quand tu douilles et que tu te dis, mais pourquoi? Parce que mon bébé est là et je suis juste en train de l'allaiter, machin truc. Ça fait beaucoup moins sens. Voilà. Mais sinon, j'ai adoré qu'on puisse vivre ça à la maison. aussi, lui, mon ex-mari, c'était une première et du coup, il se sentait vraiment utile, tu vois, même si c'est des trucs tout cons. Regardez quelle heure il est, tu vois, pensez, ah, mais il est, quelle heure il est? On sait que c'est précisément 23h27, on n'a pas de doute là-dessus. Amener les serviettes chaudes, enfin, préparer l'environnement, enfin, du coup, il a une place hyper importante, il est essentiel, quoi, parce qu'il y a la personne qui t'accompagne et lui. Donc, ça aussi, c'est assez chouette. Et puis voilà quoi. Et après, bah, les gens sont plus frileux de venir chez toi que de venir te rendre visite à l'hôpital, tu vois. Puis ils sont moins au courant. Donc aussi, t'as tout ton temps. Et puis c'est le bordel chez toi, alors ils osent pas trop rester longtemps. Et puis tu leur dis, tu peux rester, tu peux faire un petit coup de ménage, tu peux me ramener quelques courses. Je vois, il y a un truc qui est vachement plus respecté, j'ai l'impression, en naissant à la maison, en accouchant à la maison.
Ok.
Voilà.
L'accouchement de ta fille. C'était un peu kiff-kiff?
Non, je vais te le faire en plus court parce que c'était plus court, plus rapide. Super bon. Super bon parce que c'était, le passage avait été fait. Elle était, Amoury faisait 3,7 kg. Donc, c'est passé crème, quoi. Maintenant, il ne faut plus dire, c'est passé comme une lettre à la poste parce que la poste n'est pas toujours très fiable. Mais c'est passé crème. Et on ne connaissait pas le sexe non plus. Et j'avais très envie d'avoir une fille. J'avais travaillé dessus, hein, en autonomie, en psychothérapie, plein de trucs pour ne pas mettre de pression sur la relation mère-fille, hein, sur le petit être. Et là, pour le coup, elle est née. Ça a été facile, rapide, bon, intense. Hein. Et j'avais un peu peur, c'est marrant, parce que comme je savais la douleur que c'était quand même du premier, j'avais un peu plus peur pour le deuxième que pour le premier. Et finalement,
tu m'étonnes.
Finalement, ça a été facile. Et elle est née, et direct, elle nous a offert son entrejambe, et c'était une fille. Et alors là, j'ai pleuré. Mon fils n'était pas présent. Je ne voulais pas qu'il soit présent. Parce qu'il y a beaucoup aussi dans les accouchements à domicile que l'aîné soit là. Ou pas. Et c'était très tendance à l'époque. Mais moi, non, je voulais vraiment cette bulle d'accueil de ce nouvel être. Et il n'arrivait pas longtemps après avec son demi-frère. Oui. Voilà.
Ok.
Voilà.
J'aimerais bien te faire parler de l'adolescence.
Ouais.
Et peut-être aussi du, je sais pas, tu vois, du passage pour toi entre... effectivement, donc ce moment de petite enfance où t'as été maman ours, hein, si je me trompe pas.
Ouais. Moi, j'ai fait la totale. J'ai allaité, massé, porté, j'ai fait les signes, bébé signes. Je me suis formée, en plus, je me suis pas contentée de...
Les signes ?
Ouais, le concept de bébé signe, je t'apprends un truc, je suis contente. Ouais, c'est... En fait, autour des 1 an, grosso modo, hein, des fois bien avant, bien après, les enfants, ils peuvent te faire le signe du au revoir, bisous,
ah,
des
oui,
choses comme
ah,
ça.
Oui, les signes, ok, je l'ai.
Et ils peuvent faire un tas d'autres signes. Et ils verbalisent plutôt autour des 2 ans. Donc pendant 1 an...
Donc t'as pris tes mômes à signer.
Oui.
Ok.
C'est un concept qui est très très répandu maintenant.
Ah, aujourd'hui, c'est devenu...
Des signes. Oui. Mais moi, je ne me contentais pas d'aller en atelier. Moi, j'allais en atelier et puis après, je me formais, j'animais des ateliers. J'ai créé une association de soutien à la parentalité et tout. J'étais vraiment à fond, quoi. Vraiment. Et oui, donc très,
tu
très
bossais aussi beaucoup avec des enfants, c'est ça? Tu continues à bosser avec des enfants en tant que kiné, quoi.
Ouais. Et petit à petit, je me suis formée aussi aux approches autonomie, autonique, qui m'avaient beaucoup apporté. Enfin voilà, ce qui m'a apporté, je me suis formée, j'ai après accompagné les autres.
Voilà.
Et du coup, bah, j'ai adoré tout ça. Et puis après, même, tu vois, jusque alors 2-3 ans, et après... après, bah, y a la rentrée à l'école, y a le fait qu'il s'émancipe un petit peu, tout ça. Et puis, t'es moins indispensable. Bon, je dis pas qu'à 3 ans, t'es pas indispensable, hein, mais tu l'es moins en tous les cas que quand il s'agit de les nourrir, de les changer, de les habiller. Enfin, voilà. Tu l'es moins. Et puis, il faut un peu plus leur propre vie. Et puis, il s'affirme, il faut négocier, ta. Et ça a été pour moi un peu moins savoureux. Et puis, ben.
Tu veux dire qu'ils avaient leur personnalité, c'est
oui,
ça?
Oui. Alors, en même temps, ils sont cool quand même. Franchement, j'ai eu 2 enfants assez cool jusqu'à. Ouais, je trouve. Mais, ouais, je suis pas trop. Tu vois, moi, les jeux, les trucs qui m'intéressent pas, j'arrive pas à faire semblant de m'intéresser. Et donc, la période 3. 10 ans, 3, 4, 10, 12, tu vois, ça n'avait pas été passionnant. Alors, je le faisais, on trouvait quand même des endroits, tu vois, aller faire de la peinture, mais faire semblant de jouer à la poupée, de kiffer ça, je sais pas faire semblant. Donc, mais il y avait d'autres trucs. Donc, je me trouvais pas une maman hyper investie dans cette tranche d'âge, en fait. Mais
tu
c'est bien.
Tu te jugeais un peu ou pas?
Ouais, je devais me juger un peu parce que j'étais pas très en paix avec. J'essayais de faire des efforts, mais je sentais que non, en fait. Et puis, en fait, des ressources comme ça, ils pouvaient en trouver ailleurs, quoi. Leur père, leur grand frère, les copains, copines. Et c'est vrai que quand je voyais d'autres mamans qui étaient à fond, je jalousais un peu cette capacité qu'elles avaient. Mais moi, non, c'était pas moi. Donc, je me dis, bah, au moins, j'aurais appris à mes enfants à pas faire semblant. J'ai été très honnête là aussi. Mais bon, on a fait quand même plein de trucs sympas. Mais ouais. Rien à voir avec tout l'investissement que j'avais les premières années. Mmh. Et puis là, là, on est en adolescence, préadolescence. C'est plus challengeant pour moi parce que là, là, il y a zéro contrôle, quoi. Enfin, tu vois, encore jusqu'à 10-12 ans, t'as vraiment ton mot à dire. Encore, j'ai mon mot à dire. Mais je sens que...
À 12 ans, t'as encore ton mot à dire. À 15, ça commence à...
Et puis 12 ans, j'ai mon mot à dire, mais il n'y a pas de répondant en face. Moi, elle n'en a rien à secouer, quoi. Donc, oui, super, je peux dire ce que j'en pense, mais c'est pas facile du tout. J'ai deux enfants extrêmement différents. J'ai souvent dit que j'ai deux crèmes, vraiment. J'ai la crème caramel et la crème brûlée. Alors moi, je suis gourmande, j'aime beaucoup les deux.
C'est-à-dire que ton fiston est plus...
Il rentre dans les clous, il est doux. Je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un peu de souffrance, mais il n'exprime pas grand-chose à l'extérieur. Enfin, tu vois, extérieurement, il a l'air d'aller très, très bien. Je sais qu'il a ses démons aussi, des choses comme ça, mais il est très scolaire, il adore, il a besoin de peu de choses. Enfin, il est vraiment... Dès comme lui, j'aurais pu en avoir 36 000, peut-être. Dès comme ma fille, non.
En tout cas,
je dis pas,
ta fille vient te faire gratter fort là.
Ah, j'apprends énormément avec elle. Elle est hyper enseignante, pas évidente, hein. Mais
qu'est-ce que t'apprends par exemple?
Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps, longtemps, et aujourd'hui je pense être détendue, mais j'ai encore plein d'espaces sur lesquels je suis pas vraiment, vraiment détendue. Hein. J'ai cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de me dire de faire bien quand même. Elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, moi, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas ce qui fait bien.
Donc c'est.
Et j'ai
c'est,
encore beaucoup.
C'est d'équerre.
Oui, oui, oui.
Mais pas pour ta fille.
Ma fille, il faut qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même.
Ah ouais.
Non, mais c'est
mais
pas.
Je comprends.
C'est pas qu'elle fait pas ce qui fait bien, c'est qu'elle peut, elle est capable de faire vraiment ce qui est très très à l'opposé, et ça me challenge, tu vois.
Mais ça te challenge par rapport à l'ado que t'étais
j'ai
toi.
J'ai peur pour elle. J'ai peur, vraiment, tu vois, ça me touche, ça vient vraiment du fond du cœur, j'ai peur pour elle. J'ai peur que dans son côté, je m'en foutiste, pouvoir dire...
Tant t'as peur qu'elle soit un être libre.
Ouais, c'est vrai.
Alors que
Merci. C'est
des ressources
j'ai
incroyables.
J'ai en thérapie, en fait. Hein.
Tu
ouais,
es,
ouais.
Quand tu veux.
Ouais.
C'est une ressource incroyable.
Mais j'ai peur quand elle vient chercher les gens et tout. Moi, en fait, elle peut générer une telle violence chez moi, vraiment. Tu vois,
ah, ouais
ah oui.
T'as pas l'air du tout.
Si, je t'assure. Mon ex-mari pouvait me faire. Des fois, je devenais hystérique et ma fille, ouais, aussi.
Sur quoi elle vient te. Enfin, qu'est-ce qui déclenche chez toi de la violence?
Elle vient me mentir. Et ça, pour moi, c'est juste. Du coup, il n'y a plus de relation de confiance et ça me touche et ça m'effraie vraiment. Fort.
Et tu lui as dit ça?
Ouais, je lui ai dit, mais...
Elle s'en fout.
Ouais.
En tout cas, à l'heure
on l'accompagne, tu vois, fleur de bac, thérapie, ta, et elle, non, ça... Et je lui dis, c'est dommage, parce que du coup, je te laisse pas autant de liberté que je le voudrais, tu vois, ça va pas dans le sens de la liberté qui, visiblement, t'est chère, mais je sais pas, elle a pas capté encore... Et moi, ça me fait flipper. Je me dis, si aujourd'hui, j'ai peur pour elle... C'est idiot, hein. Enfin, c'est idiot, je sais pas, non, c'est humain, c'est maternel peut-être, mais vraiment, j'ai peur pour elle, j'ai peur que...
C'est fou que t'aies conscientisé la mort potentielle de ton enfant
ouais.
à la naissance.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, t'en sois là à 12 piges où t'es en train de flipper de ce qui pourrait lui arriver.
C'est vrai.
C'est comme si c'était un peu un retour en arrière, entre guillemets. Mais...
Ouais. Et en fait, je crois que je l'ai beaucoup travaillé avec mon premier, cette histoire de mort, mais peut-être moins avec la deuxième.
Elle n'a pas le droit, elle.
Et puis, il y a un truc, c'est la fille, quoi. Et j'ai peur qu'elle vive de la violence. Mais je crois qu'il y a un truc karmique après avec elle aussi. Enfin, bon, après, je vais rentrer dans des sphères très space, peut-être, auxquelles je crois.
Tu vas monter là-haut, c'est ça?
Tu
vas perdre tout le monde dans deux secondes.
Ou pas, mais je crois qu'on a vécu des trucs peut-être dans une autre vie où on s'est un peu fait mal chercher. En fait, j'ai peur qu'il lui arrive du mal. J'ai peur qu'elle se fasse mal. J'ai peur. Il y a un truc que je crois qu'il faut que j'aille voir en constellation familiale, des trucs comme ça avec elle.
Alors pour les gens qui ne l'ont pas, constellation familiale, j'ai un super épisode avec avec un gars où je raconte les constels qu'on a fait ensemble. C'était incroyable.
Excellent.
Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. T'as vécu toi une enfance, une adolescence compliquée ou tu t'es fait peur
merci,
et tout, tu vois?
C'est génial ton podcast. Mes parents flippaient pas mal pour moi, je crois.
Ah ouais.
Pas besoin d'aller chercher plus loin.
Voilà.
En fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément. Merci.
T'as fait des conneries?
Non, zéro.
Ah.
Franchement, quasiment. Ma pire connerie, c'est rien. J'avais plein de copains qui avaient des mobylettes ou scooters, et moi, évidemment, j'en avais pas. Évidemment, ils me proposaient souvent d'aller faire un tour avec eux. Évidemment, c'était très tentant, donc je faisais de temps en temps.
Bah oui.
Évidemment, pas de casque parce qu'ils n'en avaient pas. Bon, pas très prudent quand même, mais oui, j'y allais. Et puis, je me suis fait choper une fois. Tu vois, j'ai su mentir quand même. Je ne disais pas. Mes parents n'étaient pas là, je ne disais pas. Bon. Et je me suis fait choper une
ce
fois.
Ce qui est un mensonge par omission. Mais...
Bon, oui, c'est ça. Là, j'arrivais à le faire, tu vois. Je me suis auto-eue, là. Et du coup, je suis remontée une fois avec une copine. Et pour une fois, j'avais mis un casque parce qu'elle en avait un. Mmh. Et je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont grillé parce qu'ils ont eu la trace du casque. Alors
yes.
Si j'en avais pas mis, ils m'auraient peut-être pas grillé. et c'est la pire connerie que j'ai faite.
Ça va.
C'est vraiment pas grand-chose.
Est-ce que t'as peur de ce fait-là que ta fille fasse pire?
Ah oui, elle est capable de faire bien, bien pire. Mais je pense beaucoup de peur de la part de mes parents. Ouais, du coup, peut-être que j'enquille dessus.
C'est marrant ce truc d'avoir peur alors que j'ai vraiment l'impression que tu t'en foutais un peu d'avoir une fille, un garçon, tu vois. Et qu'aujourd'hui, t'as une peur qui est limite genrée, quoi. J'ai l'impression que t'as plus peur pour ta fille que pour ton fils.
Tellement. Parce que, aussi, parce que mon fils rentre plus dans les couleurs. Est-ce que si le premier, avec le tempérament du premier, avait été une fille et l'inverse, tu vois, je sais pas. Parce que là, il y a la crème brûlée, l'histoire de la crème brûlée, la crème...
Déjà, t'es chiante avec ça, tu vois, parce que pour moi, il y a un vrai truc...
Ça va étiqueter un peu.
Bah ouais, grave, t'es en train de dire qu'elle est une crème brûlée, quoi.
Ouais, mais c'est vachement bon, la crème brûlée, c'est un putain de caractère.
Tu lui dis?
Je sais pas, je lui ai déjà dit non, mais en même temps, c'est une réalité, enfin, tu vois, je pense qu'il faut pas non plus omettre la réalité, elle a des comportements, j'essaye de pas étiqueter.
Mais comme tu dis, ça étiquette.
Oui. J'essaye de pas en rajouter, mais en même temps, il y a une réalité observable et il faut bien que quelqu'un lui dise, quoi. Là, tu t'abuses un peu, tu déconnes. Et en fait, elle est capable de générer un tel truc chez moi que j'ai peur que moi, avec tout mon amour et mon rôle de maman, je vais pas. Tu vois, je suis vraiment pas pour taper les enfants, frapper. Je suis plutôt contre, même dans la mesure du possible. Et je me suis surprise. Déjà, mon fils, une fois, j'ai tapé à côté, tu vois. Mais je lui ai déjà mis une claque. Et c'était contre tous mes principes. Mais elle a réussi à me faire sortir tellement de mes gonds que. Et je m'en suis voulu tout de suite et j'ai pas reproduit. Mais c'était quelque chose de tellement. Moi, j'ai un rapport au corps qui. Il faut prendre soin du corps. Enfin, c'était impossible pour moi d'aller foutre une claque. Alors, j'en ai pris des claques, des fessées, etc. Ouais. Et j'en ai pas appris grand chose. Donc, hors de question. Et j'ai réussi.
C'était quand?
Je sais plus.
C'était pas là.
Non, c'était pas là. Ça date. Hein. Ça date quand même un peu. Et du coup, je suis stressée, voire effrayée à l'idée qu'elle puisse générer ça chez d'autres et qu'elle se fasse violenter, tu vois? Que des fois, j'ai des images, des appréhensions qu'elle va aller être avec un mec qui va, qu'elle va faire sortir de ses gonds. Enfin, j'ai vraiment peur de ça. De ce côté, il y a pas de frontière, il y a pas de limite, il y a pas de, tu vois, tout est possible. Et après, elle est très intelligente, donc
c'est incroyable,
sais,
comme ressource.
Oui,
c'est incroyable.
Et je sais qu'elle capte, parce que tu vois le nombre de retours qu'on a de l'école, des activités, des voisins, c'est un amour. Elle est tellement douce. Et toi, t'es là, t'es... Ah, tant mieux pour vous.
Ouais.
Et en fait, elle est hyper intelligente parce qu'elle sait que... Et ça la touche quand je lui nomme ça. Je lui dis, tu sais, là, moi, j'ai un amour inconditionnel vraiment pour toi. Et je sais pas si c'est ça que tu vas tester avec ce genre de comportement.
Sans aucun doute.
Et en fait, ça la touche quand je lui dis ça. Je lui dis, je valide pas tous tes comportements, mais quel que soit ton comportement, je t'aimerai de tout mon cœur, de tout mon amour et jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas, elle est interrogée. Mais quand je lui verbalise ça, ça la touche, ça me touche aussi. Mais je crois qu'elle vient tester ça, en fait. Tu vois, jusqu'où tu m'aimes, quoi. Jusqu'où tu m'aimes. Parce qu'elle arrivait aussi, alors que dans nos couples, ça commençait à être compliqué, des choses comme ça. Donc je crois qu'elle s'est incarnée avec ce truc un peu de tester, tu vois, et de déchirer, déchiqueter. Elle adore déchirer, déchiqueter tous les trucs, de comprendre. Et je crois qu'elle est là pour ça aussi. Donc elle teste, tu vois, la résistance. Elle teste la résistance de la matière au truc. Elle teste la résistance de sa mère. Et pas que de sa mère, hein, de son père aussi. Voilà.
En tout cas, elle vient te faire bosser, quoi.
Oh, de fou. Elle m'a fait bosser aussi beaucoup. Il m'a appris beaucoup. Tu vois, c'est comme si lui, il avait fait le job de tout l'avant, l'après-conception, les premiers mois, hein, tout petit. Et après, c'est passé crème, tous les enseignements. Et là, c'est elle qui prend le relais. Voilà. Fou, c'est fatigant, c'est épuisant rien que d'en parler.
Il y a un côté en toi, tu disais que... avant le podcast, parce qu'il y a un côté, t'as hâte qu'ils grandissent.
Ouais.
Pour que quelque part, j'ai envie de te dire, ils te foutent la paix, mais que tu puisses passer dans ta vie, dans ta vie de... que tu quittes ta vie de maman, entre guillemets.
C'est ça, en fait, c'est le poids de la responsabilité. C'est comme si, presque, j'attends les 18 ans, alors que je sais qu'aujourd'hui, à 18 ans, ben, ils ont encore pas mal besoin de leurs parents, ne serait-ce que financièrement, tu vois, pour leurs études, matériellement, émotionnellement. Enfin, à 18 ans, on n'est pas encore... hein, tu vois, il y a encore beaucoup de... Mais c'est comme si les 18 ans, ça y est, c'est aux yeux de la loi où tu vois, il y a un truc que ça y est, t'es adulte, t'es majeur et du coup, j'ai moins de poids en tant que responsabilité de maman. Il y a vraiment ce truc-là. Voilà, à 18 ans, je sais que j'aurai encore beaucoup d'années accompagnées ou pas. D'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être que ce sera avant, je ne sais pas. Mais il y a ce truc, presque, j'ai le compte à rebours, je compte les années en me disant, allez, encore. Parce que je me mets vraiment ce poids de maman, quoi, responsable. Ouais. Et alors, j'ai mon compagnon actuellement qui me dit, mais laisse-la se prendre des murs, laisse-la se prendre des petits pets, etc. Mais pour moi, c'est dur. C'est dur. Et je suis toujours, j'arrive pas à faire autrement jusqu'à présent d'être le parachute, tu vois, en cas de coup dur, de
chute. Tu m'étonnes qu'elle continue à faire des conneries alors.
Bah oui. Et tu vois, c'est très antagoniste, quoi. Mais.
T'as l'impression que si tu fais pas le parachute, t'échoueras ?
Non, j'ai peur. Tu vois, c'est encore peur.
Ah ouais, okay.
Et après, de m'en vouloir...
T'as peur pour elle ?
Oui.
Okay.
Oui. Et de m'en vouloir et de me dire non. Alors que... Il vaut mieux des petits pets qu'un énorme, tu vois, et t'apprends par des petits pets. Et tu sais quoi ? C'est le discours que je tiens aux parents avec les petits, avec les escaliers, oui, les marches d'escalier.
Comment ta fille a appris à marcher ?
Oui, je suis pour la motricité libre. On n'a jamais eu de barrière d'escalier dans notre maison. Tu vois, je suis... Et ça a été facile. Mais là, c'est difficile. Parce que c'est pas que de la douleur physique, je sais pas,
Mais c'est comme ça que t'apprends.
Ouais.
C'est en te prenant des portes dans la gueule.
Ouais.
Comment t'as appris, toi ?
Ouais.
Tu t'es pas pris des portes dans la gueule ?
Tardivement, peut-être. Et du coup,
à 40 ans, c'est ça ?
Avant. Mais pas pendant un moment, ouais. Et ouais, je le sais. Hein,
tes parents faisaient parachute aussi ?
Ils n'avaient pas besoin de faire parachute parce qu'en fait, je rentrais vraiment dans les clous. Vraiment.
Ok.
Ouais, c'est toute une histoire. Voilà.
C'est trop intéressant. Hein.
Ouais, il y a beaucoup à dire. Ah, je ne pensais pas avoir autant et de choses à dire, mais surtout en apprendre autant de moi. Tu vois, j'étais en mode, ouais, ça va être intéressant pour les écoutes de podcast et tout. J'en apprends vachement de moi. Je vais l'écouter en boucle, ce podcast.
À ce qui paraît, parler, ça fait du bien. Moi, après, moi, vous savez ce que j'en sais. Hein.
Ouais, c'est cool.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler, en rapport avec la parentalité, ta maternité?
Peut-être ce que ça vient déstabiliser dans le couple, ce que ça vient bousculer dans le couple, autour de la sexualité, beaucoup autour de l'intimité. Ça, on n'en a pas parlé. Et moi, j'aime beaucoup parler de sexualité. Et c'est vrai que...
C'est ton métier aujourd'hui.
Ouais, de l'intime. J'accompagne l'intime, oui. J'accompagne les corps. Et pour moi, le sexe fait partie du corps. Donc, énergie au service de la sexualité, de la spiritualité, de la créativité. Mais voilà. Donc, je me définis comme coach charnel aujourd'hui. J'aime bien.
Waouh, ouais. Ce terme.
Apprendre mais ce qu'on veut. Mais pour moi, le charnel, c'est... intellectuel, spirituel, sensoriel, sexuel. Okay. Ouais, c'est l'âme dans le corps. Du coup, quand un couple accueille un bébé, eh bien, y a beaucoup de choses qui bougent. Et encore, moi, j'ai eu des... Au niveau de l'intime et du sexe, moi, j'ai eu des accouchements qui sont super bien passés. J'ai pas eu de difficultés dans mon corps. Enfin, j'étais prête à reprendre des rapports. À l'époque, j'ai vu ça comme un rapport, tu vois. Mais ouais.
Rapport
pénétratif.
C'est tellement kiné. C'est très médical.
Ouais. Mais voilà, j'ai beaucoup évolué dans ma sexualité grâce à mes enfants aussi. À toutes mes expériences et mes partenaires et dont mon ex-mari. Et du coup, savoir que ça vient vraiment changer la donne et ça vient apprendre plein de choses. Alors que moi, mon corps n'a pas été mutilé, n'a pas été meurtri. Donc j'imagine les femmes pour lesquelles c'est le cas, il y en a beaucoup.
Énormément.
Et que voilà, moi, mon corps a été opérationnel à revivre du charnel, du sexuel.
Et ta tête ?
Et c'était pas que la tête, c'est la tête, ouais, elle voulait faire le job. Moi, j'étais éduquée dans... rapport au sexe, c'était en tant que femme...
Le devoir conjugal.
Le devoir conjugal. Hein. Maintenant, on parle de viol conjugal. À l'époque, moi, j'étais éduquée dans le devoir conjugal. Donc, il fallait que j'assouvisse les besoins de...
C'est l'occasion de rappeler pour tous les plus jeunes qui nous écoutent, et les moins jeunes d'ailleurs, que si vous ne voulez pas avoir un rapport... non consenti, il ne le faut pas.
Ouais.
Un non, c'est un non. Voilà.
Ouais. Consentement.
Cette histoire de devoir conjugal est une connerie.
Ouais, à fond.
Qui nous a hérité du bon patriarcat, n'est-ce pas ?
Ouais.
Et vous n'êtes pas obligé. Personne ne doit vous obliger à avoir le moindre rapport.
C'est
aucunement.
Ça. Et moi, j'étais éduquée, élevée là-dedans. Et du coup, je jouais le jeu. Et puis, il s'avait appuyé là-dessus aussi. Enfin, on s'était établi un peu là-dessus. Et puis, j'avais peur qu'il aille voir ailleurs. Donc, j'étais en mode, je fais le taf, quoi. Mais pas que, hein, j'avais du plaisir aussi. Mais tu vois, faut que je satisfasse ses besoins, quoi. Moi, j'ai été élevée vraiment là. Et j'en suis très, très, très éloignée maintenant. J'ai fait un sacré chemin, mais on en reparlera. Et du coup... par contre, ça m'a vraiment ouvert à d'autres pratiques sexuelles, tu vois, parce que une gynéco qui disait ça, mais il faut pas leur en vouloir aux hommes. Nous, au moment de l'accouchement, on ouvre le col. Mais eux, ils ont pas de col et puis ils l'ouvrent pas. Donc, c'est un peu jugeant vis-à-vis des hommes, mais mécaniquement parlant et physiquement parlant, le col au niveau des chakras, tu vois, il se passe des trucs et en fait. Moi, ça m'a ouvert à une volonté d'aller explorer une sexualité autre que la sexualité classique, mécanique, pornographique, pénétrative, vanille, tu vois, le truc classico-classique, excitation, érection, pénétration, éjaculation, le job est fait. Même si au travers ça, les femmes peuvent avoir du plaisir aussi, hein, je renie pas ça, il peut y avoir un truc très sympa autour de ça, mais il y a tellement d'autres choses à explorer. Et du coup, ça m'a ouvert à vivre un tas d'autres choses, à aller découvrir le tantra, le slow sex, le tao, et j'ai eu un partenaire, donc mon ex-mari, qui était très ouvert à ça, et du coup, ça a été très très chouette. Et je pense que c'est important de le nommer pour ceux qui n'ont pas découvert en amont, parce qu'il n'y a pas besoin d'accoucher non plus pour aller s'intéresser à ça. Mais de se dire, bah, en fait, il y a plein d'autres manières de faire du sexe. Et que c'est super kiffant aussi d'être dans l'éveil des sens et puis de juste toucher un sexe. Enfin, c'est venu tellement ouvrir des portes sur d'autres manières de vivre le plaisir charnel. Et ça, ça a été extra. Et en même temps, à savoir que s'il y a des attentes, que ce soit comme avant, de la part d'un ou des deux ou partenaires, ben ça peut être complexe, quoi. Que oui. J'avais pas la même. C'est ça ta question. Tu me posais la question si j'avais pas la même disponibilité. Si la tête, le corps était OP, tu me demandais la tête. Mmh. Mais moi, c'était le cœur qui était pas hyper dispo. C'est que j'avais tellement un cœur nourri par la relation charnelle à mes enfants, au travers l'allaitement, le portage, que j'avais pas besoin de plus. Tu vois, de.
Mais tu
de...
le disais dès la première nuit, en fait, il était sur toi, le môme.
Ouais.
Hop.
Ouais.
Fusion.
C'est ça. Et du coup. Et puis, bah, j'avais pas ce besoin, cette disponibilité, quoi. Donc, c'est venu secouer un peu les cocotiers, quoi. Mais amener beaucoup d'autres choses aussi. Donc, c'était chouette.
Ok.
Si. Mais il faut juste prévenir que c'est différent parce que tu dors moins, parce que tu es hormonalement. Et en même temps, ça vient permettre de vivre plein d'autres choses parce que justement, la tête est plus trop présente et du coup, ça ouvre plein de portes. C'est très déstabilisant, mais ça en ferme quelques-unes un certain temps et ça en ouvre un tas d'autres, quoi. C'est juste très différent.
Ok.
Voilà.
Et en fait, entre le moment où tu t'es rendu compte de ça et le moment où tu t'es offert justement à d'autres formes de sexualité, etc.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était compliqué d'en discuter de... Est-ce que ça a été des prises de tête entre vous?
Oui.
Et comment tu t'en es sorti, toi, sorti entre guillemets,
ouais.
comment vous avez géré ce virage?
Beaucoup de discussions. Moi, beaucoup de continuer à me couper de moi et de me mettre des auto-obligations. Enfin, j'ai choisi de vivre cette sécurité. Même la notion de viol conjugal, tu vois, je trouve ça bien qu'on en parle, mais quelque part, c'est choisi. Moi, des fois où j'ai vécu un rapport où j'en avais pas envie, ou tu vois, mais bon, bah, elle est fine, la limite,
toujours.
Tu vois, ou dans la nuit où tu en fais parce que voilà, il y a eu ça, il y a eu, Après, je suis pas très très à l'aise d'en parler trop parce que je veux pas
on s'en fout.
Cracher sur mon ancienne relation, mais
t'es pas obligé.
Ouais, il y a eu des situations pas faciles où j'ai fait le choix de continuer à me couper de moi, ce qui était juste pour moi, tout autant qu'il y a eu des apprentissages avec cette même personne, super, en allant explorer des stages de tantra, de slow sex et de plein d'autres approches qui nous ont fait vachement de bien aussi. Mais j'ai un peu usé et abusé de moi jusqu'au mais je le choisissais en même temps, tu vois, il y avait je préférais ça plutôt que d'être cocu, quoi. Et pour autant, je pense que j'ai été cocu pas qu'une fois. Ouais, je suppose, je ressens.
Okay.
Et ça me touche d'en parler. Je sais pas jusqu'où je sens que je suis capable d'y aller, parce que je veux pas juger et discréditer. Je veux garder ma part de responsabilité là-dedans, mais c'est sûr que la sexualité a été un sujet chaud, compliqué et sur lequel on arrivait parfois à s'entendre et pas tout le temps, et sur lequel on a bien avancé.
Il faut en parler, en fait, c'est ça surtout le vrai truc. Enfin, c'est un peu c'est un peu des portes ouvertes, hein, mais...
Et puis, ben, moi, c'est aller jusqu'à en parler, tu vois, parce que je sentais qu'en stage tantra, par exemple, en faisant des pratiques pas forcément sexuelles, mais avec d'autres hommes, ben, j'arrivais à ouvrir des portes avec d'autres hommes parce que ben, c'était pas mon mari, parce qu'il n'y avait pas toutes les histoires, parce que c'est comme si, tu vois...
Pour les gens qui ne l'ont pas, c'est quoi un stage de tantra? Est-ce que c'est vraiment...
Ouais.
Est-ce que c'est une grande partouze ou pas?
Ah non, pas du tout.
Bah oui, non, mais c'est pour ça que quand tu parles de ça, je me permets.
C'est se mettre à nu, se dévoiler, mais c'est pas du tout. Après, pareil, il y a tout au niveau du tantra, il y a différents degrés de tantra ou différentes couleurs ou machin truc. Non, moi, les fois
c'est pas ton expérience.
Non, c'est divin. C'est divin, il y a des écueils. On en parlera peut-être. moi, aujourd'hui, je me considère dans ma sexualité à la croisée du courant tantra, tao, solo sexe, et j'en oublie. Tu vois, dans une verticalité, vraiment quelque chose de divin, comme ça. Et du libertinage, BDSM, kinks, etc., que je considère vraiment non plus dans l'horizontalité.
Okay.
Et en fait, j'aime autant certains ingrédients d'un courant que d'autres, qu'on peut se considérer comme des extrêmes. J'aime beaucoup toute la beauté, la subtilité, la délicatesse, la sagesse du tantra. C'est la légèreté aussi, le prendre soin de l'environnement, enfin, c'est magnifique. J'aime moins, je trouve que ce qui peut être voilé, c'est-à-dire les personnes qui kiffent le cul et qui l'assument pas et qui vont dire oh, moi je fais du tantra.
Ah oui.
Et t'as des sacrés prédateurs aussi en tantra, finalement, qui tiennent, tu vois, un rôle, un masque. Et en fait, tu sens que même s'ils contrôlent tout ça, bah, y a une énergie au fond qui est juste là. Et c'est ça qui est pas cohérent, qui est dérangeant chez moi. Et parfois, le tantra peut être un prétexte juste, je kiffe, j'aime coucher, j'aime faire l'amour. Et j'ai pas besoin de tout ce monde du tantra, cette mise en scène pour me l'autoriser. Et voilà. Et ça, c'est un écueil pour moi. Et c'est ce que je trouve qui me touche dans le libertinage, c'est que c'est assumé. Les gens, ils vont en club, ils sortent, ils savent pourquoi. J'y vais pour coucher, j'y vais pour pratiquer, pour coquiner, t'appelles ça comme tu veux, dans les sex rooms, dans les coins câlins. Bon. Et du coup, tu sais à quoi t'attendre et c'est transparent et c'est honnête et ça, c'est hyper important pour moi. Par contre, ce qui manque dans ces univers-là, c'est de la lenteur, c'est de la douceur.
Ça peut être douceur.
C'est du cœur à cœur.
Merci
on a dévié.
Pas tant, en vrai.
Ok.
Merci beaucoup, Ingrid.
Avec plaisir.
C'était vraiment très chouette.
Merci à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.